Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, la recherche de terrain est-elle un métier à risque? Nous avons appris la semaine dernière, plus de deux mois après l'annonce de l'arrestation de la chercheuse franco-iranienne Farida Adelkha, la détention en Iran du chercheur Roland Marshall, spécialiste de l'Afrique. Deux arrestations qui posent la question des risques que prennent les chercheurs, sociologues, géographes, ethnologues ou de toute autre science humaine lorsqu'ils se rendent sur le terrain qui doit nourrir leur propre recherche. Ces risques peuvent être naturels lors de tremblements de terre ou d'inondations, mais ils sont le plus souvent politique et donc le fait de gouvernements, de milices ou de groupes armés qui ne souhaitent pas les voir observer la situation, ni tout simplement travailler. Nous allons en discuter avec nos quatre invités ce soir, avec Michel Agier, il est anthropologue, directeur de recherche à l'IRD et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, Marielle Debeau, elle est maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Nanterre, chercheuse à l'Institut des sciences sociales du politique et spécialiste des conflits armés en Afrique. Avec nous également au téléphone depuis Erbil au Kurdistan irakien, Barbara Couturo, elle est archéologue, chercheur au ministère des Affaires étrangères et responsable de l'antenne d'Erbil de l'Institut français du Proche-Orient. Et enfin avec nous en studio à Paris, Patrick Nedelec, il est directeur Europe de la recherche et de la coopération internationale du CNRS.
Nous allons travailler à l'étranger. Jamais nous ne faisons de ce qu'on appelle de renseignement. C'est contraire à la déontologie du CNRS. Nous ne pouvons pas faire ça. Sinon, c'est toute notre crédibilité qui disparaît. En revanche, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de comprendre, nous étudions. Et ensuite, nous publions ce que nous trouvons, ce qu'on nous a dit. Tout ce que sera pu dire au gouvernement français et à tous les autres gouvernements du monde, ça se trouve dans des revues scientifiques. C'est ça notre travail au CNRS. C'était ça, et c'est ça le travail de Michel Seurat.
Voilà, il s'agissait de Pierre Gentel, aujourd'hui disparu, qui était directeur de la section recherche orientale du CNRS en mars 1986 à propos de la disparition et de la mort de Michel Seurat pendant la guerre au Liban. Et c'est une bonne façon peut-être de commencer cette discussion. Michel Agier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue, vous êtes allé dans divers terrains qui sont des terrains qui peuvent être ou pas dangereux, en particulier en Colombie. Vous êtes spécialiste des camps et de l'encampement du monde. Vous avez travaillé sur les camps de réfugiés en particulier, qui sont peut-être des endroits qui sont relativement protégés pour un chercheur comme vous, alors que dès qu'on en sort de ces camps, il y a peut-être plus de dangers en dehors que dedans.
D'une manière générale, en effet, oui, dans les camps de réfugiés sont des lieux relativement sécurisés, pas tous. Il y a des zones dans lesquelles, effectivement, il y a des groupes, des milices ou de quelques groupes armés qui se cachent dans les camps, mais d'une manière générale, c'est plutôt à l'abri, c'est plutôt sur les bords de la guerre, mais ça permet aussi de travailler sur ces questions de déséquilibre, conflit et violence en recueillant les témoignages et les impressions des gens qui en sont tout juste sortis.
Est-ce que vous avez eu l'impression d'être en danger parfois pendant vos missions pour vos travaux, pour l'École des hautes études ou pour l'Institut de recherche pour le développement ?
Rarement sur le moment. Après, en réfléchissant, on se dit qu'on a été dans une situation qui aurait pu mal se passer. C'est ce qui m'est arrivé en Colombie en particulier, puisque j'étais en 98-99 à un moment où il y avait une reprise de la guerre intérieure qui consistait surtout pour les milices paramilitaires à reprendre du terrain sur les guérillas des FARC ou de les LN. Et je travaillais dans une zone sur le Pacifique colombien où avec des collègues, on allait de village en village. On était sur un thème qui n'était pas du tout la guerre, mais qui était les transformations culturelles, économiques de la région. Et on allait de village en village. Et puis on a su, au bout de notre périple d'une semaine, que les guérillas avaient refait le même parcours derrière nous. Et ils allaient voir les gens pour leur demander qu'est-ce qu'on leur avait demandé, de quoi on avait voulu parler.
Parce qu'il y a toujours ce doute qui était présent dans l'interview de Pierre Gentel à propos de Michel Seurat, que vous soyez des espions, que vous soyez à la solde de telle ou telle partie en présence dans une guerre civile, par exemple.
C'est toujours délicat, parce que en étant étranger, on est confronté à ce problème d'identification. C'est pour ça que pour les anthropologues ou les ethnographes qui veulent passer beaucoup de temps sur le terrain, il y a une obligation qui est de se familiariser avec le terrain, de prendre du temps, de prendre beaucoup de temps. Et donc au bout du compte, c'est cette familiarité qui peut, elle, peut-être devenir trompeuse, c'est-à-dire on connaît tellement bien les lieux, on connaît tellement bien les gens qu'on réagit comme eux et des fois on ne voit pas arriver un danger.
Marielle de Beauce, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, je rappelle, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université de Nanterre et vous êtes par ailleurs spécialiste des conflits armés en Afrique. Vous avez d'ailleurs très souvent côtoyé Roland Marshall, dont on a parlé en ouverture de cette émission et qui est détenu donc en Iran, en même temps que Farida Adelkin. Dans votre propre travail, est-ce que vous avez eu l'impression, en tant que chercheuse, de vous trouver à certains moments, en travaillant sur les conflits armés en Afrique, justement, dans des situations délicates? Et comment les avez-vous réglés?
Mon propre travail a porté sur ce que les combattants font précisément au moment où ils ne combattent pas. Donc je n'ai pas été dans les bases arrières des rébellions, par exemple, je n'ai pas été sur le champ de bataille. Il y a un intérêt qui est que c'est un petit peu moins dangereux, évidemment. Mais c'est aussi une question méthodologique, parce que je pense qu'on voit beaucoup de choses et qu'on comprend beaucoup de choses sur la violence de guerre quand précisément on se situe dans les marges de cette guerre. On peut notamment comprendre comment certaines formes de violence sont routinisées, sont invisibilisées. Et puisqu'on a commencé cette émission en parlant de Roland Marshall et de Fariba Abdelra, je pense qu'il est important aussi de dire qu'on ne sait jamais à partir de quand un terrain va devenir vraiment dangereux.
Ben oui.
L'ironie de leur détention, c'est que ces deux chercheurs ont été arrêtés et sont détenus dans des prisons iraniennes, alors que ce sont deux chercheurs extrêmement courageux qui ont mené des terrains extrêmement difficiles. Ils ont été arrêtés sous le prétexte d'atteinte à la sûreté de l'État. Pour rappel, Fariba Adelra est une chercheuse qui a travaillé sur l'Iran, mais aussi sur l'Afghanistan. Et Roland Marshall, lui, est un spécialiste des conflits armés dans la Corne de l'Afrique, au Tchad et en Centrafrique. Donc ces terrains les plus dangereux ne sont pas ceux qui l'ont amené à être arrêté et détenu.
Patrick Médélec, vous êtes directeur Europe de la recherche et de la coopération internationale au CNRS. Vous prenez très au sérieux au CNRS ce genre de mission, de départ. Il faut se préparer lorsqu'on est un chercheur et qu'on va se rendre sur un terrain potentiellement dangereux, que ça soit parce qu'il y a des groupes armés, que ça soit parce qu'il y a des coupeurs de route en Afrique qui peuvent vous enlever, ou simplement des dissensions entre le pays dans lequel on va et la France, par exemple.
Tout à fait. Le CNRS a une obligation légale et juridique de s'assurer que les chercheurs, les chercheuses qui partent en mission sont en situation de sécurité à tout moment. Pour cela, a été mis en place des procédures de maîtrise de risque qui visent à demander aux chercheurs qui partent en mission des informations sur leur point de contact, leurs coordonnées, être en capacité de les contacter à tout moment. Et nous avons, avec le ministère des Affaires étrangères français, mis en place un système numérisé qui fait qu'à tout moment, on est en capacité de tester une base de données et d'avoir l'ensemble des agents présents sur une zone qui peut potentiellement sont déclarés en situation de crise.
Par exemple, Fukushima, ça c'est une catastrophe naturelle, ça n'est pas une crise politique en l'occurrence, mais c'était un danger pour les chercheurs qui se trouvaient au Japon à ce moment-là.
Exactement. Lorsque notre directeur de bureau en poste à Tokyo nous a immédiatement alerté, il a contacté et regardé cette base de données et avec le directeur de la sûreté du CNRS avait en l'espace de 3 heures identifié l'ensemble des chercheurs présents sur la zone et avait transmis ces informations au consulat et à notre ambassade pour le rapatriement de nos chercheurs.
Barbara Coutureau, vous êtes avec nous au téléphone depuis Erbil, où vous dirigez l'antenne d'Erbil de l'Institut français du Proche-Orient. Vous êtes archéologue. On pourrait dire, évidemment, avec ce qui se passe au Kurdistan, eh bien, c'est un endroit dangereux. Ça n'est pas un endroit dangereux, puisque c'est une sorte de zone un peu apaisée depuis quelques années désormais, gérée par les Kurdes eux-mêmes. Et cette ville d'Erbil n'est pas un endroit dangereux, mais vous avez travaillé à Damas, en Jordanie, dans d'autres lieux qui étaient peut-être plus délicats en tant que chercheuse et qu'archéologue. Quand vous arrivez en tant qu'archéologue, on vous regarde comment dans un lieu justement où il y a des conflits qui peuvent être liés à des guerres civiles ou des conflits internes à la société dans laquelle vous arrivez?
Ben, pour l'archéologie, c'est un peu particulier parce que quand on va sur le terrain en tant qu'archéologue, on y arrive parce qu'on a tout un tas d'autorisations. On doit demander des permis de fouille aux autorités locales. Et pour ce qui concerne les recherches françaises, on est chapeauté par le ministère des Affaires étrangères. Donc on a besoin d'avoir toutes ces permissions-là. Évidemment, on ne les a pas si les terrains sont trop compliqués ou sont jugés dangereux. Mmh. En tant qu'archéologue, en réalité, on n'est jamais amené à aller dans un terrain qui est trop compliqué. De ce point de vue-là, on est quand même relativement pris en charge et la sécurité est quand même très, très présente.
Oui, parce qu'on est sur un terrain, effectivement, qu'on occupe pendant longtemps. Donc, on est repérable, on sait qu'on ne bouge pas. Un terrain d'archéologie, c'est un terrain qui dure plusieurs semaines ou plusieurs mois, parfois.
Exactement, et qui se prépare bien en amont pour avoir évidemment le permis de fouille, pour pouvoir repérer le site archéologique, mais il y a aussi l'endroit où on va habiter, donc tout ça se prépare et se fait encore une fois avec en coopération avec les autorités locales qui savent qu'on est là. On a également sur nos fouilles ce qu'on appelle des représentants, c'est-à-dire des membres de la direction des antiquités localement qui sont avec nous sur le terrain et qui nous chapeaute et qui nous aide pour tout ce qui est logistique, scientifique, mais aussi pour les questions de sécurité. Donc on est complètement repéré, tout le monde sait, on a besoin aussi d'avoir des visas, donc tout le monde sait où on est, où est-ce qu'on loge, de quelle heure on est sur le site. Donc de ce point de vue-là, bon alors après évidemment, il peut toujours arriver des pépins, mais à ma connaissance, il n'y a jamais eu de problème avec une équipe archéologique.
Et donc ça permet effectivement de se rassurer avant même que de se rendre sur le terrain. Puis parfois, il y a des situations qui sont surprenantes et qu'on n'attendait pas. C'est le cas par exemple de ce que nous raconte Elena Chitty. Elle est docteure en histoire contemporaine sur le Proche-Orient et elle réagissait au micro de France Culture en mai 2016 à la mort de Giulio Regeni, qui est un jeune chercheur italien de 28 ans qui a été torturé et tué dans un pays qu'il connaissait, en Égypte. Il était parti pour Cambridge sur place quelques mois plus tôt.
Je n'ai pas connu Giulio Regeni directement. J'ai des collègues, des copains, des amis qui l'ont fréquenté et côtoyé. C'était pas mon cas. Mais j'étais profondément émue, à la fois pour ce qui lui est arrivé, pour les tortures, pour son meurtre, mais aussi pour ma propre réaction. Disons que je me sens doublement fautive, si j'y pense maintenant. Et ça fait 4-5 ans, je dirais, que mes étudiants, parfois, me posent la question de savoir si, pour moi, une recherche de terrain en Égypte est encore faisable. Et moi, je n'ai pas arrêté de dire que l'Égypte est un pays qui est plus dangereux pour les Égyptiens que pour les étrangers. Là, je me sens fautive parce que je me sens devoir, de quelque façon, trahir la confiance de mes étudiants en fournissant une analyse qui s'est révélée comme n'étant pas fondée. Et de l'autre, je me surprends moi-même. Et je pense qu'au moins je puis dire qu'un pays est dangereux pour ses propres habitants, comme si c'était un constat, vous voyez, une banalité. Mm-hmm. L'Égypte est dangereuse pour les Égyptiens.
Elena Chitty, jeune docteur en histoire contemporaine du Proche-Orient, qui réagissait à propos de la disparition et de la mort après une torture de Giulio Regeni en Égypte. Une des questions, Michel Agier, c'est que les situations évoluent. Quand on adopte un terrain en tant que chercheur, anthropologue, géographe, historien, que sais-je, on l'adopte pour un certain nombre d'années et on peut arriver sur un terrain qui n'est pas dangereux et progressivement le devenir et se trouver l'otage sans le savoir d'une situation qui évolue.
Oui, d'autant plus que on ne peut pas ne pas voir que les sociétés bougent sans arrêt. C'est-à-dire que
quand on est anthropologue ou des sciences sociales.
Je veux dire, suivez mon regard. On ne peut pas faire comme si les sociétés restaient traditionnelles et éternellement traditionnelles. Elles sont toutes bousculées, elles sont toutes en changement. Alors moi, j'ai choisi des terrains, effectivement, où on a le nez dessus. Et par exemple, il n'y a rien de tel qu'un camp de réfugiés pour voir les capacités d'invention, de réinvention, de transformation, que ce soit la vie familiale, l'habitat. Les politiques, puisqu'il y a quand même des forces politiques qui naissent dans les camps et qui, à un moment donné, peuvent faire de la politique au sens le plus noble, avec des projets politiques. Je me souviens de Libériens qui s'étaient réorganisés dans des camps en Sierra Leone et qui disaient, une fois que la guerre se termine, on va monter des projets, on va demander les soutiens des ONG internationales, et plutôt que d'aller dans des petits villages isolés qui sont trop dangereux, on va faire des petites villes. Et je trouvais ça très intéressant, parce qu'il y a une imagination politique qui naît aussi dans ces lieux hybrides que sont, par exemple, les camps de réfugiés. Donc c'est un objet aussi, c'est absolument un objet pour la recherche de sciences sociales d'aller voir tous ces lieux qui sont entre l'ordre et le désordre, la perturbation, l'hybridation permanente.
Marielle Debeaux, sur cette question justement des évolutions d'un terrain sur lequel on se situe, vous avez vu ça aussi en tant que chercheuse sur les conflits armés en Afrique?
Oui, parce que j'ai mené des recherches au Tchad pendant 15 ans et le pays a beaucoup bougé, mais aussi le rapport des autorités tchadiennes à ma propre recherche. Au début, j'étais totalement inconnue, je passais inaperçue. Aujourd'hui, quand je dis quelque chose, y compris dans les médias en France, ça peut avoir des répercussions au Tchad. Et donc, ma responsabilité n'est plus la même que celle qu'elle était quand j'étais une toute jeune chercheuse.
C'est une responsabilité aussi par rapport à ce que l'on croise sur le terrain, par rapport à ses amis, parce qu'on se fait évidemment des amis sur place, par rapport à ses relations, ses contacts, qui évidemment peuvent être comptables pour un gouvernement ou pour une partie de la société, de ce que vous leur faites dire dans vos propres travaux, d'une certaine façon, Marielle Lebeau.
Oui, je pense que notre première préoccupation est la sécurité de nos enquêtés sur place. Ça doit être notre priorité. Et les discussions portent actuellement en sciences sociales sur la façon dont on peut protéger nos enquêtés, mais aussi la façon dont on peut avoir un rapport différent avec ces pays. On est sorti du temps où on considérait que les pays du Sud étaient exclusivement des pays où on allait observer des choses, on allait observer des phénomènes, on ne les considère plus comme des réservoirs de matière brute qu'on va analyser dans des universités, dans des laboratoires beaucoup plus riches dans les pays du Nord. Et aujourd'hui, il y a des débats extrêmement importants sur la façon dont on peut avoir des collaborations et des collaborations éthiques avec nos collègues des pays du Sud, tout en prenant en compte aussi les difficultés de ce type de collaboration, parce qu'il y a des rapports
financiers aussi.
Il y a des rapports de financiers, des écarts de ressources qui sont absolument énormes. Et il y a aussi un refus de certains de ses collègues dans les pays du Sud qui nous disent « Aujourd'hui, vous arrivez, vous, avec vos slogans sur l'éthique, la collaboration, et nous, on se retrouve toujours à être, en quelque sorte, la dernière roue du carrosse et à ne jamais participer aux débats internationaux de la même façon que les chercheurs qui sont dans les meilleures universités » et qui ont aussi la possibilité de voyager, qui ont la possibilité de voyager sans visa. Donc il y a toutes ces questions extrêmement importantes qui se posent et qui vont bien au-delà de la simple sécurité des enquêtés et de nous. Et
Barbara Coutureau, en tant qu'archéologue, vous avez évidemment des relations privilégiées avec beaucoup des gens qui sont sur le terrain, parce que vous avez besoin pour les terrassements, pour tout un tas de travaux que vous menez en tant qu'archéologue, de discuter, de travailler et de faire travailler aussi des enquêteurs locaux, des collaborateurs locaux. Est-ce que vous connaissez justement ce risque éthique qui vient d'être pointé du doigt par Marielle Debeau dans des conditions effectivement où les retournements de situation, on le sait par exemple pour l'Afghanistan et pour les fixeurs ou les gens qui travaillaient, les traducteurs qui travaillaient pour l'armée française mais également pour les journalistes qui travaillent sur place, eh bien ce sont des situations extrêmement délicates une fois que les Français ont quitté le terrain par exemple, Marielle Debeau. Barbara Coutureau, excusez-moi.
Je pense qu'en archéologie, la question est un peu moins problématique. Effectivement, nous, par rapport aux collaborateurs locaux, il y a donc deux types. Ceux qui sont qui travaillent à la Direction générale des Antiquités, avec qui on collabore vraiment sur tout l'aspect scientifique, mais évidemment aussi sécuritaire. Et ensuite, sur le terrain, effectivement, on travaille avec des ouvriers qui nous aident au dégagement des fouilles, donc qui sont évidemment rémunérés, hein, c'est pas un travail bénévole. Eux, c'est vrai que pour certains, au début, ils peuvent nous voir arriver un petit peu de manière étrange, sans vraiment comprendre ce qu'on va faire, pourquoi est-ce que tout à coup on vient défigurer le lieu qui est juste à côté de leur village. Mais assez vite, il y a un échange qui se fait assez spontané, et puis c'est vrai que de travailler pendant un mois, toute la journée, avec des gens, on échange sur tout un tas de choses au niveau de la langue, de la culture, donc c'est extrêmement riche et extrêmement précieux, évidemment, de pouvoir travailler avec ces gens-là. Mais c'est vrai qu'une fois que nous, on part, eux repartent à leur activité. En général, les ouvriers qui travaillent avec nous sont des gens qui travaillent dans les champs, par exemple, ou qui ont qui font des boulots journaliers. Donc, une fois qu'on repart, eux, ils continuent leur vie et on espère se retrouver l'année d'après sur le terrain. Je pense qu'il y a une implication qui est moins problématique pour eux. C'est moins problématique, je veux dire, que les fixeurs, par exemple, ou ces gens-là.
Patrick Nidelec, justement, sur ces relations que l'on doit avoir en tant qu'une grande institution d'État, comme le CNRS, par rapport à tous ceux qui collaborent de près ou de loin aux recherches des chercheurs français sur des terrains en difficulté, sur des terrains dangereux. Est-ce qu'il y a une sorte de charte, pourrait-on dire, au CNRS ou dans toutes les institutions qui envoient des chercheurs sur le terrain pour réfléchir à ces conditions, ne pas mettre en danger ses propres informateurs, etc.
Alors sur les informateurs, effectivement, il y a certainement toute une série de mesures qui sont mises en place. Au niveau du CNRS, nous travaillons en priorité avec les recommandations qui nous sont transmises par les consulats et les ambassades. Et très souvent, lorsque nous sommes dans ce qu'on appelle les pays dits à risque, en zone orange ou en zone rouge, nous validons une mission si, par exemple, l'ambassade nous explique que pour ce type de terrain, il convient de mettre en place un environnement avec quelqu'un qui les accompagne.
Des officiers de sécurité, par exemple?
Officiers de sécurité ou personnel qui sont connus de l'ambassade et qui vont accompagner le chercheur sur le terrain pendant quelques temps.
Est-ce qu'il y a des formations, par exemple, sinon du type commando, mais en tout cas des formations pour les chercheurs qui vont dans des endroits relativement dangereux, pour pouvoir savoir comment éviter un enlèvement, comment éviter des risques de ce type-là?
Oui, il y a une formation, il y a deux fois par an, une formation qui est organisée par le ministère des Affaires étrangères, la gendarmerie, ministère de l'Intérieur, centre de crise, qui met un certain nombre de chercheurs et personnels qui ont à faire du terrain en situation réelle, comment on réagit en cas d'attentat, comment on réagit en cas de prise d'otage. Et vous savez que ce sont ce type de réflexes qui peuvent être, d'une certaine manière, la garantie peut-être d'être en situation de survie.
France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
Un extrait du titre « Turquie en Syria » du musicien iranien Mehdi Rajabian, qui a été arrêté en 2013, emprisonné pendant 2 ans et qui maintenant est en liberté conditionnelle chez lui. Je rappelle que le temps du débat aujourd'hui est consacré à la recherche de terrain comme métier potentiel à risque avec 4 invités, Michel Agier, Marielle Debeau, Patrick Nedelec et Barbara Coutureau. Barbara Coutureau, vous avez suivi vous-même une formation à la gestion de risque, justement. Vous êtes à Erbil, qui n'est pas une région, il faut le dire, puisque c'est le Kurdistan irakien, dangereuse a priori pour les chercheurs, évidemment, avec ce qui est en train de se passer dans le voisinage, ça pourrait le devenir un jour, mais pour l'instant, ça ne l'est pas encore.
Oui, effectivement, quand j'ai pris mon poste, donc j'ai fait cette formation d'une semaine, qui est une formation en général où on va à reculons, et j'étais très agréablement surprise, parce qu'effectivement, on nous forme et on nous apprend tout un tas de choses qu'on n'avait jamais réalisé avant. Et le témoignage tout à l'heure de la doctorante ou la jeune docteur qui parlait du terrain italien, effectivement, on a toujours l'impression de connaître nos terrains, en fait, de maîtriser le danger et d'être sûr qu'il n'y a pas de souci, on connaît les gens, on parle la langue, tout va bien. Et en fait, on réalise, enfin, par ce stage, du coup, c'est vrai que je dois bien admettre que j'ai réalisé que non, il y a tout un tas de choses qu'on ne connaît pas, qu'on maîtrise pas. Et du coup, je trouve que c'était effectivement extrêmement formateur. J'espère évidemment ne jamais avoir à être dans une situation où je dois mettre en application ce que j'ai pu apprendre là-bas. Mais c'est effectivement très important. Et puis surtout aussi, ça fait comprendre qu'on n'est pas tout seul quand on part sur un terrain. C'est vrai que quand on est jeune étudiant et qu'on part, on part un peu la fleur au fusil. On est content d'aller sur le terrain, d'y être enfin, et on réalise pas tout ce qu'il y a derrière, tous les enjeux que ça peut avoir. Et effectivement, de savoir qu'on est extrêmement suivi par l'ambassade, par les consulats généraux dans les pays, qu'ils ont notre localisation, qu'on est là, qu'on a les numéros de téléphone, c'est extrêmement rassurant. Et c'est vrai que, encore une fois, c'est des questions qu'on se pose pas. Du coup, je rejoins vraiment ce qu'elle disait. On est persuadé qu'on est sur des terrains sûrs. Et en fait, et c'est vrai que les derniers événements avec Daesh, mais également en Europe, nous ont montré que de toute façon, les terrains sûrs, a priori, n'existent pas. Enfin, on est le risque zéro n'existe pas. Mais au moins, c'est vrai qu'avec ce genre de formation-là, on se dit qu'on peut avoir des réflexes qui peuvent être quand même bien utiles en cas de pépin.
Oui, Michel Agier, vous aviez en 1997 dirigé un livre collectif qui s'appelait Anthropologue en danger, dans lequel vous aviez réfléchi à la question de l'engagement du chercheur. Et vous disiez, il faut avoir un engagement raisonné, c'est-à-dire cet engagement sur le terrain que le chercheur se doit d'avoir, puisque la question c'est de se rapprocher de son terrain, de se rapprocher de ses informateurs, de ceux avec qui on va travailler et sur lesquels on va travailler, mais en même temps effectivement, il faut garder une sorte de raison pour ne pas être trop près dans des conditions dans lesquelles on pourrait devenir soi-même otage de sa propre étude.
Oui, c'est-à-dire, d'une part, effectivement, ce titre-là était tristement anticipateur, mais c'était le titre de l'éditeur sur un travail de chercheur qui portait plus sur jusqu'où et quelles sont les conditions justement du terrain et de l'implication et de l'engagement. Et on peut arriver à se dire qu'effectivement, une des tâches importantes aujourd'hui, c'est de défendre la possibilité de produire du savoir. C'est-à-dire on est pris dans des contraintes, parfois dans des situations violentes, dans lesquelles la possibilité même de développer une recherche devient presque impossible.
Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se retire de son terrain?
Dans ces cas-là, on patiente. Non, je pense pas qu'il faut sortir. Il faut négocier. Moi, il faut négocier avec les gens qui sont là, leur expliquer ce qu'on veut faire, essayer d'entrer en familiarité, même avec des situations difficiles. Évidemment, il y a des situations qui sont les situations où ça n'est plus possible, qui sont les situations de violence elles-mêmes. Mais en dehors de ces situations-là, je pense que tout est négociable, tout est possible en y prenant le temps. Mais surtout, ça permet aussi de combattre ce mouvement obscurantiste qui accompagne le développement des violences, des violences sur les chercheurs et sur les citoyens en général. Je crois que la défense même du savoir engagé, du savoir impliqué, est elle-même devenue une mission pour les chercheurs.
Oui, Marielle Debeau, sur cette mission que se donnent les chercheurs eux-mêmes, d'ailleurs, de faire le clair dans une situation qui ne peut ne pas l'être.
Je pense que il faut aussi défendre la possibilité d'accéder à ces terrains. Il est de plus en plus difficile en France, mais aussi pour les collègues à l'étranger, d'accéder à certaines zones de conflit, parce qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir des autorisations. Et c'est une position qui est défendue, y compris par nos collègues qui sont aujourd'hui détenus en prison. On veut pouvoir accéder à ces zones difficiles. Et le problème dans les universités où les chercheurs n'ont plus accès à ces zones, parce qu'ils n'ont plus l'autorisation, c'est qu'ils vont en quelque sorte sous-traiter le travail de récolte des données à des chercheurs locaux, des types de fixeurs. Il y a des recherches qui sont faites, par exemple, aux États-Unis sur l'Afghanistan, par des chercheurs qui n'ont jamais mis les pieds en Afghanistan, mais qui, par contre, vont faire porter les risques à des Afghans, ce qui pose en fait deux problèmes. Premièrement, le type de savoir que l'on a sur ces zones de conflit, si l'on n'y va pas, et si l'on se repose sur des non-chercheurs. Et puis surtout, ça pose un problème éthique. Comment peut-on écrire tranquillement dans son bureau sur les conflits, si le risque est porté par des personnes locales, mal payées, qui, elles, sont en plus complètement...
Il est possible qu'ils soient les otages de la situation dans laquelle ils se situent aussi.
Oui, parce qu'il faut quand même oublier que... Enfin, justement, il ne faut pas oublier que quand on a un passeport français, on peut être rapatrié, qu'on bénéficie de protections dont nos interlocuteurs locaux ne bénéficient jamais.
Sur ce point, Patrick Nedelec, et puis ensuite Barbara Coutureau. Patrick Nedelec, quelles sont les zones qui sont totalement interdites aujourd'hui? Par exemple, un chercheur du CNRS, il voudrait se rendre dans quelle zone où c'est impossible de se rendre?
Même si la liste n'est pas si longue que ça, il y a quand même quelques zones de foyer dans lesquelles il est assez difficile de se rendre, en Corée du Nord.
Ça, on l'imagine.
Et dans certaines zones. Ce que je voulais rappeler quand même, c'est que c'est assez important. On a quand même 60 000 missions d'agents CNRS chaque année. 7500 qui donnent lieu à un avis du fonctionnaire de défense et de sécurité et 1% seulement qui donne un avis négatif. Notre objectif au niveau du CNRS, c'est de s'assurer de pouvoir donner un avis positif. Ce qui veut dire, par exemple, que lorsque vous avez un terrain Ebola, naturellement, vous n'avez plus de mission possible sur ce type de terrain. Mais un chercheur qui a besoin de travailler sur Ebola, qui est un spécialiste d'Ebola, pourrait aller se rendre là-bas à condition d'avoir suivi une formation sur comment on travaille en système ouvert sur un virus hautement pathogène. Voilà les conditions dans lesquelles on essaye de donner accès un maximum aux chercheurs sur des terrains difficiles.
On sait, Barbara Coutureau, que dans des terrains de guerre en particulier, par exemple des journalistes qui ne peuvent pas s'y rendre parce que leur organisme de presse leur interdit de se rendre sur place, utilisent les services, comme le disait à l'instant même Marielle Debeau, de gens qui sont des pigistes sur place, des fixeurs sur place qui ramènent les informations. Est-ce que on voit aussi des cas où des gens passent outre, des chercheurs passent outre l'avis de leur institution pour pouvoir continuer à fréquenter un terrain? Barbara Coutureau, vous qui êtes passée par Damas, par le Koweït, par la Jordanie et aussi qui êtes maintenant à Erbil.
Alors, en archéologie, non, évidemment, puisque de toute façon, le terrain, on a besoin d'y être sur place. Ce cas de figure peut se présenter sur des terrains qu'on a dû quitter brutalement. Par exemple, ça a été le cas en Syrie, où évidemment, il y avait beaucoup de missions archéologiques qui travaillaient. Et puis, à partir de 2010-2011, tout ça a été impossible. Donc, c'est vrai qu'on peut garder contact avec les personnes sur place, les villageois avec qui on travaillait, qui peuvent continuer, par exemple, à nous informer sur l'état du site, sur les pillages, sur des questions comme ça. Donc, pour l'archéologie, c'est différent. Après, effectivement, il peut y avoir... moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer, heureusement, ils sont assez rares, mais des chercheurs qui ont plutôt intérêt à se mettre en sous-marin. Après, c'est vrai que ça n'engage que leur responsabilité. Nous, évidemment, on déconseille fortement à tous les chercheurs qui viennent ici de se rendre sur ces zones rouges. Quand des chercheurs viennent, par exemple, à l'IFPO en nous disant qu'ils ont envie d'aller du côté de Bagdad, Anbar ou en Syrie, on les met de toute façon tout de suite en relation avec le consulat général et l'ambassade, en leur faisant bien comprendre que c'est des terrains qui sont extrêmement dangereux. Ce qui se passe aujourd'hui en Syrie prouve malheureusement que personne, évidemment, n'est à l'abri et qu'il n'y a aucune immunité, que ce soit pour les journalistes, les chercheurs, les étrangers, les humanitaires ou quoi que ce soit. Donc heureusement, c'est un cas de figure. Moi, j'en ai très peu rencontré dans ma carrière, mais après, c'est la responsabilité, évidemment, du chercheur, mais je crois que c'est extrêmement rare.
Oui, il y a, Michel Agier, ce type de cas, puis il y a un cas qui n'est pas rare, chez les anthropologues en particulier, c'est d'être soi-même du terrain sur lequel on travaille, c'est-à-dire des chercheurs qui sont exilés, sont venus en France, ont fait leurs recherches, et puis veulent repartir dans leur propre pays. Un article de The Conversation sur le Venezuela nous disait que Paola Vasquez-Lezama, qui travaille, qui est anthropologue, que vous connaissez sûrement, Michel Agier, expliquait que, par exemple, toute sa famille est encore sur place. Et donc, quand elle travaille sur le Venezuela, eh bien, elle se retrouve dans des situations où peut-être il pourrait y avoir des rétorsions sur sa famille si ce qu'elle publiait ne plaisait pas à telle ou telle partie de la société vénézuélienne. Qu'est-ce que vous pensez de cela, Michel Agier?
C'est aussi le cas d'un collègue anthropologue et iranien, d'ailleurs, qui vit et qui a maintenant un poste en Suède, Sharam Khosravi, qui a d'ailleurs écrit à propos de cette expérience-là, où sa région d'origine, son groupe familial d'origine et sa propre trajectoire comme migrant depuis l'Iran jusqu'en Europe, où il s'est fait finalement quand même reconnaître comme anthropologue et pas seulement comme iranien ou comme migrant, fait partie de son savoir. Bien sûr que comme tous les exilés, mais avec quelque chose peut-être en plus qui est la conceptualisation qu'ils font de cette expérience de l'exil, ils vivent complètement dans deux sociétés, deux familles souvent, deux cultures. C'est une expérience qui est attachée, à ce déplacement, à cet exil.
Marielle Debeau, sur ces questions de relations entre pays d'accueil sur lequel vous travaillez et puis votre propre pays, et puis peut-être aussi cet aller-retour qui est aussi un bouleversement, parce que quand on arrive sur un terrain qui a été lui-même bouleversé par des conflits, eh bien on se retrouve dans une situation où même émotionnellement le travail du chercheur en est bouleversé.
Oui, la sécurité, c'est pas uniquement être vivant et être en bonne santé, ne pas être blessé, c'est évidemment la base de tout. Mais il y a aussi des risques plus émotionnels à travailler sur ce type de terrain. Et pour revenir sur la question des pays à risque et des pays sans risque, j'aimerais quand même dire qu'en France aussi, on peut faire des recherches qui sont risquées. J'ai des collègues qui travaillent sur la France et qui ont des recherches qui peuvent les amener à être dans des situations extrêmement difficiles.
Des exemples sur quel type de... Parce que je vois pas comme ça, mais a priori, peut-être, y a-t-il des risques à prendre en tant que chercheur en sciences sociales en France, mais c'est sur quel type...
Par exemple, je pense à ce que Daniel Bizol a écrit sur l'extrême droite et son enquête au sein du Front National et les loyautés incompatibles, ce qu'il a appelé les loyautés incompatibles. C'est-à-dire, d'un côté, il a développé des rapports d'amitié avec certains membres du parti, mais d'un autre, il appartient... absolument pas à cette mouvance politique, d'accord, ce qui le mettait dans une situation difficile. Et on peut penser aussi à un autre facteur d'insécurité qui est les risques de plus en plus importants de poursuites judiciaires en France. Il y a une dizaine d'années, deux sociologues, Frédéric Néra et Sylvain Laurence, ont publié un livre sur cette question-là, Enquêter de quel droit, qui revient sur les différents procès qui sont faits à des chercheurs. C'est une question qui est extrêmement importante, même si ces risques sont différents de ceux d'un enlèvement, évidemment. Mmh.
Patrick Nédélec.
Mais justement, dans ce type de situation, on met en place ce qu'on appelle des protections juridiques qui permettent d'accompagner les chercheurs avec des avocats pour justement, quelles que soient les situations, ça peut être en France comme vous l'avez dit, ou à l'étranger, très rapidement, on évalue la situation et on met en place un système dans lequel on finance un avocat qui va accompagner le chercheur, parce que des fois on peut se retrouver dans des situations extrêmement complexes, inextricables parce que le pays complexe.
Michel Agier.
Oui, je voudrais dire que c'est vrai qu'on est dans une atmosphère générale et mondiale qui va vers plus de judiciarisation, plus d'obsession sécuritaire. Et cette obsession sécuritaire, on posait la question tout à l'heure, et puis on a un petit peu fait l'impasse. Est-ce que les chercheurs suivent toujours les indications de sécurité qu'on leur donne?
C'est vous qui avez fait l'impasse, moi je vais poser la question.
Je ne répondrai pas à la question, mais bien évidemment... comment dire,
j'ai vu dans le sourire de Patrick Nédélec que ça pouvait arriver, mais qu'on ne voulait pas le dire parce que c'était trop risqué.
Il faut essayer de vivre sa vie, et quand on vit sa vie pour comprendre le monde social qui bouge, qui se transforme, qui vit des révolutions et des transformations, bien évidemment, ça implique d'insister, même quand le terrain est difficile, voire un peu dangereux.
Barbara Coutureau, un dernier mot depuis Erbil, où vous vous trouvez en tant qu'archéologue, justement sur ces risques courus que vous courez, mais tranquillement d'une certaine façon, parce que vous pensez qu'il n'y en a pas tellement dans l'endroit où vous vous trouvez, dans le Kurdistan irakien.
Non, à l'heure actuelle, effectivement, le Kurdistan irakien est en zone orange, donc ce n'est évidemment pas les zones rouges, donc une grande vigilance est demandée, et encore une fois, on est bien entouré, on est bien suivi, et s'il devait se passer quoi que ce soit, effectivement, on quitterait le terrain. Mais à l'heure actuelle, au Kurdistan, je touche du bois au moment où je dis ça, tout va bien, et on espère qu'effectivement, avec tout ce qui se passe de l'autre côté, il n'y ait pas de vagues d'ondes qui déferlent sur le Kurdistan, mais à l'heure actuelle, Kurdistan et Erbil est une région où ça se passe bien et où on peut faire la recherche facilement.
Mais continuez à faire de la recherche avec tous ceux qui vous rejoignent, parce que vous n'êtes pas seul sur ce terrain à Erbil. Barbara Coutureau, un tout dernier mot très bref, Patrick Nédélec.
Oui, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été mis en place pour garantir la sécurité de nos chercheurs nécessite néanmoins la responsabilité de l'ensemble des chercheurs qui partent à l'étranger, et parfois se rappeler que le bon sens peut être quelque chose qui peut nous sauver la vie.
Merci beaucoup d'être venus tous les quatre. Donc merci à vous Michel Agier, merci à vous Marielle Debeau et à vous Patrick Nédélec ainsi que Barbara Coutureau pour être venus sur cette question délicate de la recherche de terrain. Est-elle un métier à risque ? C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier et Louise André. À la technique aujourd'hui, Marie-Claire Oumabadi. À la vidéo, Cindy Le Gromelec. Et à la réalisation, Alexandre Manzanares. 18h59 sur France Culture. Rebonsoir à vous.
Bonsoir à nouveau, Emmanuel Laurentin.
Alors, votre programme pour d'ici 4 minutes ?
D'ici 4 minutes, une dispute art plastique. On va s'intéresser à Félix Fénéon, à la nouvelle exposition du Palais de Tokyo qui présente beaucoup d'artistes sous l'intitulé Futur, Ancien, Fugitif, Une scène française. Et puis, un journal de la dispute consacré au prix Marcel Duchamp. Le temps du débat demain, Emmanuel ?
Mais à l'ordre du jour demain, la Convention citoyenne sur le climat. Nous sommes en partenariat avec le journal La Croix qui, tous les mois, vient avec nous réfléchir à un événement important du mois écoulé. Et nous allons nous demander comment mettre un peu de démocratie participative dans notre démocratie représentative. C'est une question d'actualité, pourrait-on dire. Et on va essayer de la traiter en 40 minutes. Ça va être assez difficile.
Ce sera demain.
On va essayer.
À 18h20, merci beaucoup, Emmanuel. Vous écoutez France Culture. À 19h, les titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.